Bonjour Marie-Nou.
Bonjour Madame.
Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la tragédie de la Terre qui s'intitule De Sophocle à Sri Aurobindo de Satprem. Et c'est le chapitre Le tournant du destin, la septième terre. Alors on est à la septième terre. Jusqu'où sont allés ces extraordinaires rishis? Nous ne le savons pas. Mais on sent tellement une autre manière d'être, un sens si merveilleux du tout possible humain, une autre conscience qui veut bâtir une terre divine, un homme divin, par ses propres pouvoirs divins. Et leur exploration si profonde et si haute en même temps de cet homme qui est là, mystérieusement sous les étoiles, comme s'il était le lieu d'une suprême métamorphose, où se rejoignent les deux extrêmes de l'existence et où se joignent toutes les existences terrestres dans un grand rythme qui sont tous les cœurs de la Terre comme une symphonie. Alors, ton humanité deviendra comme le mouvement de ces dieux, comme si visiblement les cieux de lumière étaient fondés en toi. Ils étaient vraiment de grands matérialistes divins ou des matérialisateurs, des conquérants de la divine matière. On se sent tout grimaçant à côté d'eux et si petit comme des gnomes casqués de fer. Mais ce qui est très étonnant, Sri Aurobindo le note. L'invariable formulation de la pensée védique jointe à sa profondeur, à sa richesse et à sa subtilité donne lieu à d'intéressantes spéculations. Une telle forme et une telle substance invariable n'auraient guère été possibles au premier début de la pensée et de l'expérience psychologique, ni même dans leur premier progrès et leur premier développement. On peut donc supposer que les hymnes qui nous restent maintenant représentent la fin et non le commencement d'une période. Il est de même possible que les hymnes les plus anciens soient le développement ou la version relativement moderne d'un évangile lyrique, plus ancien encore, couché dans les formes plus libres et plus souples d'un langage humain encore plus primordial. Constamment, le Veda lui-même parle des rishis anciens et des rishis modernes. Purvaha et Nutaha. Ces anciens étaient assez lointains pour être considérés comme des sortes de dieux, les premiers fondateurs de la connaissance. Ou bien, il est possible que toute la volumineuse masse de ces litanies soit seulement une sélection faite par Vyasa, le grand sage traditionnel, le prodigieux compilateur dont le regard est déjà tourné vers le commencement de l'âge de fer, vers les siècles d'un crépuscule grandissant et d'une obscurité finale. C'est peut-être seulement le dernier testament des âges de l'intuition, les aurores lumineuses des ancêtres qui s'adressent à leurs descendants, à une race humaine dont l'esprit se tourne déjà vers les niveaux plus bas et les gains plus sûrs. Plus sûr, peut-être, selon l'apparence, que les dieux nourrissent de la vie physique, une humanité de l'intellect divine et de la raison. Psalmodié, les rishis. En simplicité, on peut se demander pourquoi et par quel tournant du destin Sri Aurobindo est venu tant de millénaires après redécouvrir le secret des Védas et tenter de l'incarner, de le mettre dans notre matière en cette fin de notre âge de fer, cette heure de l'obscurité finale. Savons-nous seulement que nous sommes dans l'obscurité finale? Tant d'efforts, tant de quêtes, tant de morts. Pourquoi? Au début du siècle, juste en 1900, Cherubino annonçait la fin de l'âge de fer, comme s'il savait qu'il était venu pour cette fin. Mais tout est si sombre, cette tragédie de la Terre si profonde, et le chaos attend chaque cosmos enfanté. Vraiment, encore une fois. La tradition indienne dit que chaque univers enfanté s'achève par un pralaya. La dissolution puis recommence avec des âges déclinants de la vérité, puis de la demi-vérité, puis l'obscurité, le chaos final, et on recommence. Qu'aurait-il à dire celui qui resterait seul survivant sur quelques cimes de la terre? Il aurait à dire encore l'amour et la beauté, le délice des mondes. Et cet un qui chante toujours, et quoi d'autre? Que reste-t-il au bout et au commencement? Quelle vérité, quel chant? On meurt parce que ça ne chante pas. On revient pour que ça chante. Ça coule comme une grande vague de délices sans fin et pour toujours. Et qu'aurait-il à dire ces hommes d'aujourd'hui au bout, sur une dernière cime d'avant le chaos? On meurt parce qu'on ne trouve pas ce qui est. Et comment ce qui est serait-il destructible ou malheureux? C'est plein, ça coule, comme toujours. Et les univers meurent d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils sont. Mère, qui avait une vaste connaissance occulte, disait qu'il y avait eu 6 univers, 6 terres avant la nôtre. 6 terres, toutes détruites. C'est un peu terrifiant. 6 terres avant tous ces êtres inconnus qui promenaient les mêmes peines, les mêmes douleurs et les mêmes espoirs. Puis quelques rishis venaient à nouveau dire l'espoir, le chemin, la découverte à faire. Mère disait que le 7e univers, le nôtre, ne sera pas détruit, mais il y aura quelques bouleversements. C'est toute la question. C'est sans doute pour cela que Cherubino est revenu au bout comme au commencement, comme un des derniers rishis, là, sur cette crête fragile, pour dénouer enfin ce terrible sortilège. Mais on ne peut pas être tout seul à dénouer le malheur. Il faut que des hommes, quelques hommes, prennent conscience. Dès qu'il y a conscience, il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Selon les traditions, les êtres de la dernière terre avant la nôtre avaient de grands pouvoirs. Ils habitaient l'Atlantide légendaire, comme Platon parle de cette Atlantide. Il savait beaucoup de choses, ce Platon, avant de rêver d'aller fonder ailleurs sa cité idéale. Ces êtres avaient de grands pouvoirs occultes qui échappent à notre science, et heureusement, ils savaient manipuler les ressorts secrets de la nature, ceux que nous ne connaissons pas, et heureusement. Et au lieu de les attraper au piège de nos artifices mécaniques, ils les faisaient peser et jouer sur la matière de leur corps. Elles pouvaient déjouer les lois de la gravitation, les lois des distances, les ici, là-bas, toutes nos savantes lois. Et ils ont fait un univers terrible, peut-être plus terrible que le nôtre, parce qu'ils ne savaient pas, ou ils ne voulaient pas savoir, la seule loi. Et ils étaient seulement des petits égaux comme le nôtre en plus grand, avec les mêmes instincts que les nôtres en plus puissants, et la même séparation profonde qui fait un toi et un moi, surtout un moi un peu formidable. Et quel serait le moi qui domine, qui prend? Quel serait le tyran le plus efficace, avec le plus de pouvoir sur toi et les autres? Ils avaient peut-être réalisé occultement, et par des moyens moins toxiques, ce que nous avons réalisé mécaniquement. Et la destruction fut totale, et heureusement. Et on meurt. Et toutes les terres meurent de n'avoir pas trouvé ce qui fait vivre. Le dernier secret est celui de la mort et de ce qui peut changer la mort. Il faut vaincre la mort parce pour qu'il n'y ait plus de mort, disait Mère. Non pas de devenir immortel selon nos conceptions enfantines, parce que la mort contient l'essence même du mensonge, contient le ce qui fait qu'on n'a pas trouvé le déclic, le délice, la joie, l'amour, le grand large, cette musique de l'univers, enfin, ce qui est. Et ce qui est a naturellement le pouvoir de ce qu'il est, sans mécanisme, sans occultisme, tout naturellement. Parce qu'il n'y a rien de plus naturel au monde. Seulement, il faut le découvrir. Il y a une chose à découvrir, et tout le reste est découvert, même la victoire sur la mort. Seulement, il faut aller chercher cette chose très profondément dans notre propre substance et peler, si l'on peut dire, les nombreuses couches millénaires qui la recouvrent, comme les couches de calcaire, des polypiers empilés. Peut-être faudrait-il dire troués plutôt que pelés, parce que nos dernières couches sont aussi dures que du béton. Ce sont des couches de connaissances qui ont un pouvoir hypnotique sur la matière, notre matière, et l'ont coagulée dans un refus hermétique, d'autant plus récalcitrant qu'il sait. C'est une sorte de nom sacro-saint, et tous les saints s'en mêlent avec tous les diables. Shrobindo est venu faire ce trou-là, déterrer cette mort-là, enfin, ce mensonge. Cette muraille de mort qui nous sépare d'un moi plus vaste. Seulement, il faut des hommes qui suivent, quelques hommes. Il faut un chaînon entre une espèce et une autre. Le passage est ouvert. Mais à quoi sert-il si nul spécimen de notre espèce n'a le courage de suivre? Il fallait bien un jour qu'un premier terrien ose sortir de son monde aquatique. Sinon, Dieu Tout-Puissant peut se manifester tout seul et glorieusement. Mais à quoi sert toute cette évolution et toutes ces petites bêtes si elles ne trouvent pas le Dieu qu'elles contiennent, leurs propres moyens, leurs propres pouvoirs, ce qu'ils sont et qu'elles sont enfin? Le Dieu secret demeure sous le seuil, dit Savitri. Alors je continue. La suite, c'est la dernière lampe. Encore une fois, ce cœur poignant d'Antigone revient à nous. Nous avons fait une longue route. Nous les hommes, sous bien des toits, et nous ne savons pas qu'aujourd'hui chaque cœur a battu bien des fois, et chaque geste tout petit contient bien des gestes oubliés, bien des hommes disparus et toujours là. En chacun, le destin se répète et toute l'espèce revit ses mots et ses espoirs. Mots AUX. Hein. Nous sommes des milliers d'hommes, tout là, et chacun porte la grâce de tous ses malheurs comme une fleur d'âme qui a tant attendu. Ces millions d'années et ces terres disparues ne vont pas se répéter. Il y a des moments du destin et chaque homme porte ce moment. Et il est responsable de ce moment où tant de mots, tant de méfaits et de bienfaits ambigus viennent se ramasser en une féroce question ou un cri d'âme. Nous ne savons pas tout notre pouvoir d'homme muet qui va par ces 20 boulevards. Nous ne savons pas que nous sommes ces millions d'hommes avec tant de pas derrière nous et qu'il suffit d'un instant, un rapide moment d'âme pour que tout éclose ou tout se ruine. Nous ne connaissons pas notre propre miracle. Et il fallait que nous arrivions à ce point des ténèbres, à ce point du non-sens, à ce point du bout de tout, pour que jaillisse enfin cet homme avec un grand H. Une splendeur brûlante sous un manteau de ténèbres. Il fallait que nous arrivions non seulement au bout de tous nos maux et de tous nos méfaits, mais au bout de nos vertus et de nos bienfaits. C'est autre chose que de naître par-delà toutes nos singeries, par-delà toutes nos connaissances, par-delà tous nos systèmes. Et comment naître à ce que nous ne connaissons pas et qui pourtant était toujours là, si nous avions réussi en tant qu'homme idéal, déjà nous serions emmurés dans une cage de cristal comme tant d'autres fossiles avant nous. Les obscurités de la terre sont plus sages que ces petites lumières, disait Sri Aurobindo dans l'un de ses brefs poèmes. Nous avons une idée pygméenne de l'homme. Et c'est vrai, il est pygmé et barbare tant qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il est. Aurions-nous marché tant de siècles et traversé tant d'espèces pour en arriver là? De quelle hallucination sommes-nous victimes? À quoi sert notre intellect? Est-il si obscurci, si subjugué par sa propre trame? Et où est notre cœur? Sri Aurobindo voyait bien cette dernière heure de l'homme, ce dernier crépuscule, et il disait que c'est le dernier. Mais singulièrement, il disait, quand l'obscurité sera plus profonde, étranglant la poitrine de la terre, quand le mental corporel de l'homme sera la seule lampe. Comme un voleur dans la nuit, viendront les pas cachés de l'un qui entre inaperçu dans sa maison. Ça, c'est Savitri. Ce corps, oui, le lieu du dernier mystère, la seule lampe au milieu de cette tour de Babel nocturne, c'est le mental des cellules qui trouvera la clé, disait Mère. Ces mystérieuses cellules qui écoutent, qui communiquent partout, qui savent leur propre miracle et le tout possible merveilleux, celles-là écoutent déjà ce souffle, veulent ce souffle, la délivrance de Dieu qu'elles contiennent, et rebâtir la terre et refaçonner cette boue à l'image de ce qu'elles sont. Déjà, il y a des millénaires, dans leur premier rime au maroût, les forces du vent, qui est le souffle des rishis, disaient. Elles sont les énergies de l'âme. Elles deviennent expertes de la conquête, parfaites dans leur force d'accomplissement. Pas de demi-vigueur de lumière. Elles augmentent les puissances de notre argile. D'elles-mêmes, alors, ces énergies de l'âme s'attellent et vont à la charge dans notre marche en avant, vers la lumière, la félicité. Et dans les torrents de cette inondation au large flot, elles se purifient et se vêtent de ces densités. Et ici, avec les roues de leur chariot, elles brisent et ouvrent la montagne de la matière. C'est la fin. Cette densité-là, elle existe. Elles sont en train de pilonner notre matière et elles seront notre prochain vêtement. Alors la vie pourra progresser indéfiniment en donnant des formes toujours nouvelles à sa substance. Alors tous les moyens nécessaires se façonneront par le pouvoir de la conscience. Éveille-toi et veux, disait Mère. Éveille-toi et veut. Et ce vouloir est celui de notre corps, cette dernière lampe allumée au milieu de nos ténèbres mentales. Et ce sera la fin des machines, la fin de notre incurable barbarie. Incurable barbarie, Savitri. La fin de cette tragédie de la Terre. Et cette félicité pour laquelle crie le cœur de la terre. Alors, Sophocle viendra peut-être encore une fois avec Sri Aurobindo, avec Antigone et Mère, délivrer et écouter le grand ressac bleu d'une musique qui façonne dans la joie des corps de beauté et des découvertes à l'infini dans l'inépuisable mystère de l'inconnu. Et il termine la tragédie de la Terre, le tournant du destin, le 9 décembre 1994. Satprem. Alors, je dis merci à Sri Aurobindo, merci à Sophocle, merci à Mère, et puis je sais qu'ils sont là.